Donc, tant qu'il faut pour distinguer la signification du mot unique et la signification du mot un. Unique, ça veut dire il est seul à être ce qu'il est. Un, c'est toute autre chose. Cet être unique, il n'y en a pas deux. Nous affirmons qu'il est un en lui-même. Or, dans ce que nous connaissons de ses médiations avec le monde, eh bien, ces médiations que nous appelons les attributs sont contradictoires. Parfois, il se manifeste à nous comme bon. Parfois, il se manifeste à nous comme juste. Et nous affirmons que cela est un. Or, pour l'expérience comme pour la raison, c'est contradictoire. Et j'ajoute un peu d'explication là-dessus, vous me direz que c'est plus clair. Il y a deux vertus fondamentales qui sont en jeu dans ces deux attributs de l'unité. En fait, il y a 13 attributs de base de l'unité, j'en prends que deux. L'attribut de bonté, c'est l'attribut de charité. Et l'attribut de justice, qui est l'attribut de rigueur. Or, la définition de la charité peut être formulée à différents niveaux, mais je vais la formuler de façon simple. Être charitable, c'est donner à quelqu'un, même s'il ne mérite pas, à la limite, surtout s'il ne mérite pas. Parce que s'il le mérite, ce n'est que justice. Donc, finalement, on est charitable qu'avec ceux qui ne le méritent pas. Avec ceux qui le méritent, on est juste. Vous voyez les dangers de la charité lorsqu'elle est seule. On est charitable qu'avec les truands. Et ça mène à des catastrophes dans l'histoire. Bon, alors la justice, c'est exactement l'inverse. La justice, c'est ne donner qu'à celui qui mérite et que ceux qui le méritent. Et par conséquent, lorsque je suis occupé à la conduite de justice, je viole l'absolu de charité. Et lorsque je suis occupé à la conduite de charité, je viole la justice. Alors comment dire que l'un c'est l'autre, que Dieu est un? Vous voyez l'importance de ce qui se découvre là. C'est-à-dire, dire que Dieu est un acte de foi. Nous avons des motifs de savoir que nous avons eu expérience de cela. Ça s'est dévoilé à certains moments historiques de notre histoire. Cette unité mystérieuse s'est dévoilée. Mais lorsqu'elle est cachée, elle est objet de foi. Alors dire que Dieu est unique, à la rigueur, ça peut arriver à être une évidence rationnelle. En tout cas pour un croyant. Les polythéistes, non. Les polythéistes n'arrivent pas à cette évidence rationnelle. Pour les polythéistes, ce qui est rationnel, c'est le polythéisme. Parce qu'il y a un chaos des valeurs. Les absolus sont en conflit. C'est ce que la mythologie grecque appelait la guerre des dieux. Les valeurs sont toutes valeurs et toutes contradictoires. Le monde commence dans l'histoire d'un chaos des valeurs. C'est presque le récit biblique, j'ai un peu modifié. Alors, cette affirmation hébraïque du monothéisme, de l'unité, dépasse infiniment l'affirmation sémite générale, qui nous est familière, du monothéisme de l'unicité. Ceci dit, il ne serait pas faux de dire que le monothéisme de l'unicité est compatible avec le monothéisme hébreu, mais n'est pas le monothéisme hébreu. C'est bien clair. Alors que nous avons tendance à les confondre. Je dirais d'une autre manière. Lorsque, par exemple, Maïmonide félicite le monothéisme de l'islam comme étant un monothéisme authentique, ben c'est un monothéisme authentique de l'unicité. Ce qui n'est pas le cas des polythéismes. Mais ça ne signifie pas du tout que le monothéisme de l'islam soit le monothéisme hébreu. Le monothéisme hébreu est au-delà du monothéisme de l'unicité, c'est l'affirmation du monothéisme de l'unité. Et c'est précisément la théologie chrétienne qui en dévoile la difficulté. Est-ce que c'est clair? Vous voyez où est le débat? Bon, est-ce que ça a été plus clair maintenant? Top. Et alors nous avons trois lectures de ce verset. Une lecture, j'irai assez rapidement, on me dirait si c'est suffisamment clair. Une lecture au niveau anthropologique. Une lecture au niveau théologique, je veux dire. Et une troisième lecture qui va retrouver notre sujet au niveau de la réémergence de l'universel. Je l'appellerai au niveau messianique. Peu importe d'ailleurs les adjectifs, c'est par commodité d'exposition. Le commentaire que je vais suivre pose la question de la manière suivante. Ce verset est dit par qui à qui? Le verset dit « Écoute Israël, Hachem, notre Dieu, est un. » Qui parle à Israël pour lui dire « Écoute Israël, notre Dieu commun, c'est le même. » Et il est un. Mais que le verset de Daniel n'est pas simple. Okay. Alors, l'ensemble des commentaires peuvent être groupés en trois lignes de réponse. La première, c'est les enfants de Jacob, les tribus d'Israël, s'adressant à leur père, qui est le premier homme qui a reçu le nom d'Israël. La première situation, quand je l'appelle anthropologie, c'est quand les enfants de Jacob attestent vis-à-vis de leur père de l'unité de leur foi. Très rapidement, pour indiquer l'importance de cette lecture, ça va être la nôtre, c'est qu'il y a différentes manières d'être Israël, les tribus d'Israël. Elles sont chacune d'entre elles authentiquement Israël, Reuven, Lévi, Shimon. Et puis, il est nécessaire à certains temps de notre histoire de se souvenir de cela, que malgré les apparences, eh bien, je vais le dire en termes un peu simples, tous les juifs sont juifs, même les juifs pieux. Et il est nécessaire de le rappeler. C'est tellement invraisemblable que tous les juifs font partie de la même entité qu'il est nécessaire de la tête. Nous avons la tête le matin, le soir, en se levant, en se couchant, en voyage à la maison, comme dit le verset. Vous voyez que cette recherche de l'unité désigne bien une réalité existentielle dont on risque de perdre l'évidence. Nous sommes en être de diaspora. Et en particulier, le peuple de l'idéal de l'unité est en aide de diaspora intérieure qui nécessite cette affirmation de témoignage permanente. Écoute Israël, et c'est les tribus qui s'adressent à leur père, Jacob Israël, celui qui est notre Dieu, j'ajoute, quelles que soient les apparences, c'est le même. Et je vais vous donner une illustration simple. Vous savez qu'il y a trois grands courants de la religion juive moderne. Le courant dit orthodoxe, le courant dit conservateur, le courant dit libéral, réformé. Imaginez un rabbin orthodoxe, un rabbin conservateur, un rabbin réformé, dire ensemble cette phrase. Qui va les croire? Vous voyez que ça dépasse la raison. Bon, c'est une indication en passant. Alors ça, il s'agit que de ces trois courants-là. Et si vous prenez les 22 partis politiques que nous avons à la Knesset, imaginez-les ensemble dire cette phrase-là. C'est-à-dire que malgré les apparences, c'est une affirmation d'unité. Or, se reflète la diaspora humaine à l'intérieur de cette diaspora au second degré, qui est la diaspora de la société d'Israël. Deuxième lecture. J'y passe un peu plus rapidement. La deuxième situation, c'est Moïse s'adressant à Israël. C'est d'ailleurs la lecture du contexte historique de ce verset. Simplement, je vous l'indique, sans l'analyser, ça nous prendrait trop de temps. Effectivement, nous savons qu'il y a au minimum deux manières de se définir comme Israël, et dont l'unité est toujours problématique. Israël en tant que société, qu'elle se définisse comme nation, comme culture, comme peuple, et Israël en tant que religion. Et dire que l'un, c'est l'autre, l'un disant à l'autre, écoute Israël, Hachem notre Dieu, c'est le même, vous voyez que ça désigne encore une situation de diaspora intérieure qui doit être unifiée et résolue. Mais j'en arrive à la troisième lecture, c'est celle que nous donne Rashi. La troisième situation, c'est quand les nations du monde s'adressent à Israël pour lui dire, écoute Israël, celui qui est notre Dieu, sous-entendu à toi Israël, à nous les nations, c'est le même. Je vous signale très rapidement que nous sommes peut-être dans un temps culturel où on commence à entendre cela dans certains balbutiements. C'est-à-dire lorsque se découvre l'immensité de l'ère des cultures qui se réclament du Dieu d'Israël, chacune à sa manière d'ailleurs. Comme si ce verset était dit par les nations s'adressant à Israël. Écoute Israël, Hachem, notre Dieu, toi Israël et les nations, c'est le même. Je ne cite pas l'archevêque de Paris, hein, c'est beaucoup plus général et universel. Alors, voilà ce que dit Rashi. Rashi dit ceci. Hachem, Shehu Elokeinu Ata. Hachem, celui qui est notre Dieu maintenant. Moïse, s'adressant à Israël, dirait ceci dans ce verset. Velo Elokea Ode Kochavim, et pas le Dieu des idolâtres, ou Atidiyot Hachem Echad, est destiné à être un Dieu un, reconnu comme un, c'est moi qui interprète. Shenema, d'après ce qui est dit, un premier verset qui est un verset du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9. Kiaz et Por et Amim, car alors je verserai sur les peuples, je déverserai sur les peuples, sa femme roura une langue épurée. Likro Kulam Beshemashem, pour invoquer tous le nom de la chose. Vous voyez le lien entre l'unité de l'universel humain et la langue qui a été appelée tout à l'heure la langue une, la langue de l'unique, qui est appelée maintenant, dans le prophète Sophonie, la langue épurée. Je crois qu'on pourrait arrêter l'analyse là. Je me borne à terminer le commentaire de Rashi. Venema, et Rashi cite un deuxième verset dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9. Bayomahu, en ce jour-là, et Hashem Echad, Dieu sera, ou Shmo Echad, et son nom sera. Et donc, si on résume, et vraiment avec beaucoup d'efforts de simplification, toutes ces indications qui sont quelques-unes parmi beaucoup d'autres, on s'aperçoit qu'indéniablement, le discours biblique parle du problème de l'universel humain en termes de langue unique, avec toutes les dimensions de signification et de problématique que cela implique et que cela représente. Voilà, je crois que nous avons un peu bouclé cette énorme période historique qui commence à Babel et puis qui finalement s'achève dans une espérance de type messianique. Je ne peux que me borner à mettre en évidence ce qui est notre expérience contemporaine de l'intérêt renouvelé dans beaucoup de disciplines pour les recherches linguistiques et très probablement pour essayer de retrouver des instruments qui nous permettraient de nous approcher de ce que ces textes visent dans leurs commentaires ou dans leur dire direct, la langue unique, c'est-à-dire la langue de l'unité. Ce qui est en jeu, c'est l'unité des valeurs. Disposons-nous déjà d'une langue capable de s'exprimer, et bien entendu, à tous les niveaux. En vous parlant ce soir, j'ai eu conscience d'une difficulté du sujet. Tout se passe comme si nous traitons toute cette semaine du fait qu'il est impossible de communiquer. Mais pour se dire cela, on communique. Alors vous avez la parole.
La langue de l'unique, est-ce que finalement c'est l'hébreu ou est-ce que c'est pas l'hébreu?
Écoutez, ce sujet, je veux bien tenter de vous répondre ce soir. Ce sujet, nous allons inévitablement l'aborder demain soir avec le Père Dupuy. Alors si vous voulez économiser la question pour demain soir.
Okay. Il est évidemment impossible en honneur d'épuiser toutes les questions que posent ces neuf versets de la Genèse. Il y a quand même un aspect sur lequel j'aurais aimé que tu nous apportes, si possible, quelques précisions. Puisqu'on voit que, dès le début des versets, le problème du langage est lié au problème de, j'appellerais, c'est un terme prétentieux, l'universalisme territorial. En effet, tous les commentateurs, tu connais mieux que moi, montrent, en lisant d'ailleurs simplement les versets eux-mêmes, que la civilisation de l'époque, des hommes, se construit une ville, une méga-ville et une tour, de peur d'être dispersée, c'est-à-dire que le problème du nomadisme et de la sédentarité se trouve posé dans des termes qui sont en plus ceux de l'éparpillement, la volonté de Dieu, et que les hommes occupent toute la terre. Il y a là un refus d'occuper toute la terre de peur que ce soit une diaspora, un exil. Et donc, par conséquent, ça va être justement la punition que cette conquête de la terre se transforme en exil. Mais il y a quand même au départ, semble-t-il, non pas semble-t-il, mais clairement, un refus de ce qui risquerait donc une mutilation, peut-être une mutilation. Ça, c'est la première question. Concernant l'éparpillement, la deuxième question qui concerne la langue elle-même. Il y a en hébreu au moins trois termes pour désigner la langue. Le terme le plus courant, c'est l'achod, qui signifie à la fois anatomiquement la langue, et qui est le terme le plus courant pour indiquer la langue. C'est la bouche. Et le troisième, c'est sopho, lèvres. En dehors du fait que ça n'est pas vrai en toutes les langues, que par exemple en allemand et en anglais, les termes anatomiques qui désignent la lèvre, la bouche et la langue, en anglais, lip, mouth, tongue, et en allemand, lippe, mund et zunge, ne sont pas utilisés pour désigner la langue. En allemand, c'est Sprache, d'un verbe sprechen, parler, puisque le parler, et en anglais, c'est language ou speak. Donc là, il y a une double question, à savoir qu'en hébreu, ce sont trois termes anatomiques qui sont utilisés pour la langue, et Le terme employé est, selon la classification qu'en donne le Malvin, SAFA, est celle qui désigne la langue au niveau le plus superficiel.
Le terme employé par le verso.
Employé par le verso. Donc là également, c'était ma deuxième question, ce choix qui n'est pas fortuit, pourquoi, semble-t-il, la langue unique ne serait qu'une langue la plus externe de communication au niveau extérieur. Le verset sur lequel il a fait un cours pendant un an à Orsay, Hachem se passe à Tiffard au diabète de Bosquero, Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Il y a donc passage de l'extérieur à l'intérieur. La troisième question, c'est le problème si important auquel tu as fait allusion. L'Arcelon Mouchem, faisons-nous un nom. Et il semble bien que c'est là-dessus que la tradition a vu la faute de la génération de problèmes qui n'est pas indiquée nommément. La Gemara de Sanhedrin 109 explique les trois interprétations possibles de faisons-nous un nom et toujours est basée sur le fait qu'il semblerait qu'il y ait, on l'a voulu remplacer donc l'unité par un anthropomorphisme.
Un nominalisme.
Une question que je pose. Et.
On peut dire une
chose qui m'a beaucoup gêné, que j'ai étudié moi-même cette question, c'est le fait qu'on nous dit que la punition de ces hommes est limitée, ils n'ont pas été entièrement détruits sur la génération de. Parce qu'il y avait amour entre eux.
Parce qu'il y avait
amour entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait amour dans une perspective, pourtant, qui était une perspective, comme tu l'as signalé en citant les trois types de commentaires sur le texte, dans une visée impérialiste et totalitaire. Je rappelle, pour mémoire, que l'on pourrait résumer la façon dont justement le Malvin, qui a vécu au XIXe siècle, en 1919, explique l'histoire de la Toba belge. Ça pourrait se résumer, si je traduis en européen moderne, Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un empire, un peuple, un guide, Nemrod. Et que le nazisme, qui est le tueur de Berlin, qui a vécu également au XIXe siècle, en 1917 et 1893, en commentaire sur la Torah, dit, ce qu'on leur reproche, c'est que ce sont devenus arrodiles, des paroles unes. Ça veut dire qu'il y avait toujours une unanimité au Seigneur suprême. Quel que soit le contenu des paroles, c'est le fait qu'il y avait unité, et comme le dit le Malvin, qui a fait allusion, il nous dit, mais qu'est-ce que ça nous fait qu'on nous raconte comment ils ont prêté des briques? La vie va perdre son temps à ça. Non, c'est de là que nous comprenons que les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, eh bien, on les brûlait. C'est de là, n'est-ce pas, au Kasdim, le four Kamakor, dans lequel on jetait les gens vivants. C'est encore, encore pire que ce que nous avons pu vivre récemment. Alors, je crois que j'ai assez de questions pour cette question-là et que
si vous permettez, je vais essayer de mettre en évidence la question filigrane qui traverse un peu l'ensemble de ces questions, quitte à analyser peut-être plus un point qu'un autre, parce que c'est énorme ce que tu as demandé. Je partirai du terme que tu as employé à la suite des citations du Malbim et du Matzib de l'impérialisme, que je décris de la manière suivante. L'histoire qui commence à la tour de Babel est évidemment décrite comme catastrophique. C'est l'histoire des guerres. À partir de Babel, les rivalités font que l'histoire, c'est l'histoire des guerres, d'où l'espérance messianique qui va traverser toute la prophétie hébraïque et qui est l'espérance de la réintégration de l'universel réel. Et je crois qu'il suffirait d'opposer ces deux concepts, l'impérialisme et l'universalisme. J'essaie de décrire la différence en catégorie hébraïque. L'impérialisme, les histoires des différents impérialismes qui se succèdent et qu'on appelle dans le langage traditionnel les malchouyotes, les royaumes, mais on pourrait le dire en termes modernes, contemporains, les empires. Et bien ça consiste dans le fait que aucune nation particulière qui résulte de l'éclatement de l'unité universelle n'enferme tous les génies humains universels. Que chaque nation est en particulière et géniale, mais partielle. Et donc partial, si je veux, peu importe les analogies verbales que j'emploie. Et il y a tentation, à tour de rôle, que pour des raisons de développement historique, économique, culturel, une nation qui se trouve tête de proue de la civilisation prenne en charge le rêve de l'universel, mais le transforme en impérialisme en imposant sa manière d'être aux autres famille humaine, selon l'expression biblique. C'est suffisamment clair, c'est la vision biblique de l'impérialisme. La visée, c'était l'universel, mais l'échec, c'est l'impérialisme. Et c'est au fond cela qui risquait d'être à Babel et qui a été détruit par la confusion des langues. En ce sens, le fait que l'humanité était diasporisée, c'est plutôt évident que l'humanité, dans son ensemble, soit impérialiste. C'est un peu ce que tu as voulu indiquer par ces citations. Ce qui est important, c'est que la Bible, en tant qu'elle est l'histoire d'Israël, du dedans et au-dedans des nations, n'est pas du tout l'histoire d'une nation parmi les autres, mais c'est la visée de la reconstruction de l'unité, de l'unique dont j'ai essayé de parler, ne fût-ce que par allusion, pas une parmi les nations qui s'instaurerait en fabriquant de pseudo-universels qui seraient de l'impérialisme, mais d'essayer de restituer l'unité dont on a parlé. Et alors, je reviens brièvement à votre question, entre parenthèses. S'agit-il de l'hébreu? C'est ce que le texte biblique semble indiquer en parlant d'Abraham. Nous verrons demain un peu plus en détail. C'est au chapitre 14 de la Genèse où Abraham est appelé Abraham l'hébreu. Or, nous savons, s'il s'agissait d'une indication d'état civil de société, d'un parmi les peuples, qui est le peuple hébreu, nous le savons déjà. D'un chapitre précédent, Abraham est descendant de Hever, qui est descendant de Shem. Je veux dire, s'il s'agissait d'une filiation ethnique, nous le savons déjà. Et c'est pourquoi le Midrash dit que Abraham, l'hébreu, ça veut dire qu'il parlait la langue de Hever. Non pas qu'il faisait partie de l'ethnie de Hever, ça nous le savons déjà, mais qu'il parlait la langue de Hever. Alors, il est bien évident que, à ce niveau, l'identité hébraïque, la langue hébraïque, d'où le phénomène de la Bible, attesterait la recherche de cet universel de l'unique au-delà du risque des impérialistes. Et c'est, je crois, l'histoire que nous raconte la Bible. C'est le conflit entre la messianité et les impérialistes. Voilà pour la première indication. Je reviens à la première question. Je ne sais pas si j'ai réussi suffisamment clairement d'indiquer ces deux perspectives de lecture des commentaires. Il y a deux valeurs en question, la valeur d'unité, la valeur de multiplicité. Alors, nous sommes habitués à ce que la valeur fondamentale, c'était l'unité, que la multiplicité est indiquée de manière négative. Il faudrait restituer les deux valeurs à la fois. S'il y a multiplicité et unité, la multiplicité est un enrichissement. Si l'unité disparaît, la multiplicité est catastrophique parce qu'elle est diaspora. Et elle, je reviens à la remarque précédente, elle est à l'origine du fait que l'histoire de l'humanité, depuis Babel, c'est l'histoire des guerres, des rivalités, des différentes manières d'être homme, toutes géniales, mais en rivalité, parce que tenter de l'aventure impérialiste, à cause du fait de ne pas disposer de l'unité, de sainteté dont il a été parlé tout à l'heure. Et alors, il en résulte que, si je recorde cela à l'analyse de la société juive elle-même, la première question que tu as posée, une diaspora sans métropole, c'est une catastrophe. C'est l'être d'exil. Je vais un peu changer de niveau. Je crois, au niveau métaphysique, eh bien, toute créature a une sorte de sentiment, d'intuition plus ou moins confuse d'être en exil en tant que créature. Parce que manque la référence à l'unité d'origine. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je résume ici à un sujet important. Tant de sociétés humaines, tant de traditions humaines, tant de cultures humaines ont semblé diagnostiquer leur propre foi dans le modèle de la foi d'Israël. Qu'il est possible d'être délivré de cette condition d'exil qui s'attache à l'aide de créatures. Il y a un exemple historique, la foi d'Israël, telle que la Bible en a témoigné. Peut-être que ça éclairerait par là ce mystère, pourquoi tant de sociétés se réclament, à leur manière, se réclament de la foi d'Israël dont parle ce récit biblique. C'est-à-dire que la situation de diaspora, la situation d'exil, c'est la situation de la créature. Ce dont il faut être sauvé, c'est de la condition de créature. Et qu'il y aurait un témoignage historique qu'on peut être sauvé de cette condition d'aliénation de créature. Et alors je crois que c'est cela la réponse à la première question. Ce dont l'humanité de Babel avait peur, c'est d'être dispersé en dispersion pure et simple, sans référence à l'unité originelle. je veux dire, cette crainte est justifiée. Et alors, il me semble qu'il faut revenir à la lecture du Malbim et du Natsir. En fait, le danger, d'après le diagnostic de Dieu dans ce récit biblique, le danger, c'était l'autotalitarisme du peuple un avec langue une et que cela, monolithisme. Et que la thérapeutique à cela aurait été précisément la dispersion. Mais si la dispersion se rattache à une métropole d'origine, elle n'est pas catastrophique. Si la métropole disparaît, c'est l'exil. Peut-être qu'on pourrait répondre à ce niveau-là. Alors, il y a une question importante sur la linguistique de Safa, Lachaud, P. Je crois, très schématiquement, qu'on pourrait le rattacher à la question suivante. Il y a, au fond, deux réalités du langage. Le langage comme communication des consciences entre elles, et là, c'est Safa. Et le langage comme expression de vérité, là, c'est Lachaud. Et je n'ai dit que deux des trois termes. Alors tout se passe comme si la diaspora des langues, c'est que nous avons gardé la capacité de langage comme communication des consciences et que nous avons perdu la capacité de langage comme expression de vérité, sauf dans les cas exceptionnels du langage poétique ou du langage musical auquel il a été fait allusion hier soir, ou du langage prophétique dont témoigne l'ami. Alors Safa, c'est la communication des consciences. Mais si la Safa est Echat, alors elle est la Shona Kodesh, pour le dire en hébreu.
Le Malbim rattache Sotho Adar et les deux autres termes à Binah.
Oui, bon, ça c'est déjà un niveau kabbalistique. Et puis, grosso modo ce que je dirais, c'est que nous sommes, semble-t-il, encore dans cette période qui a commencé à Babel, avec peut-être un progrès. C'est qu'il y a une exigence de plus en plus profonde de retrouver cet universel et que c'est parallèle à une exigence de plus en plus dévoilée de retrouver une langue unique. Alors j'étais extrêmement frappé par le commentaire de Rashi que je vous ai cité en terminant, c'est-à-dire que l'espérance de l'unité est liée à la capacité de disposer d'une langue épurée. Alors le résultat de l'épuration des langues sera-t-il l'hébreu? Eh bien en tout cas c'est la foi juive, indéniable. Dans notre tradition c'est une foi de type mystique. Mais le phénomène de la restauration de l'hébreu contemporain indique que quelque chose s'est mis en mouvement. Alors il y a une minute, il y a des travaux qui sont peut-être encore en stade de balbutiement, d'essayer de trouver dans les structures kabbalistes de la langue hébraïque ce que serait la structure d'une langue cybernétique unique éventuelle. J'ai employé des grands mots, mais ça va un peu dans ce sens-là, mais c'est au niveau balbutiement. Absolu. Retenez simplement la réponse que nous reprendrons demain très en détail de Abraham l'Hébreu. Et je crois que nous en parlerons avec le Père Dupuis. Peut-il y avoir une lecture de la Bible autrement qu'en hébreu, du point de vue d'un universel authentique? Une problématique de question qui sera inévitablement posée. Le fait que l'ensemble de la chrétienté, déjà depuis quelques générations, cherche un ressourcement hébraïque pour pouvoir assurer un ressourcement biblique est très significatif. Le nombre de recherches hébraïques en milieu chrétien est spectaculaire par rapport à la fin du siècle dernier. Alors c'est un phénomène qui apparaît de 2000 ans. Bien, encore une ou deux questions parce que je vois que le sujet a été un peu lourd dans son ampleur. Oui, je vous en prie.
Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'histoire du monde se déroulait comme une espèce de tension, de relation entre d'un côté Israël. Et de l'autre côté, les 70 nations.
Non, j'ai pas dit ça comme ça, mais enfin, continuez.
Mais alors, quelle est la place que prennent dans cette configuration les civilisations asiatiques, la Chine, le Japon, etc.
Ben, ça fait partie des 70 nations.
Oui, normal.
C'est-à-dire, ce serait un peu de chauvinisme occidental que dire qu'il n'y a de nation qu'occidentale. Non, c'est évident. Vous savez, nous n'avons pas parlé d'un aspect du problème, peut-être. On l'abordera demain, c'est la place particulière de l'araméen dans l'ensemble des langues. Il y a les 70 langues, l'araméen et l'hébreu.
Non, c'est 72 alors.
Oui, mais l'araméen n'est pas une des 70 langues, et ce n'est pas l'hébreu non plus. Et je dirais ceci, c'est que c'est une catégorie Israël et nations qui est très polémique. Parce que d'un côté, vous avez un ensemble humain extrêmement microscopique. Les Juifs, Israël, c'est peu de conscience dans l'humanité. Et cette catégorie biblique, Israël, les nations, est énorme. Ça veut dire qu'il y a l'universel humain d'un côté, et puis de l'autre côté Israël. Si la Bible n'en avait pas parlé, ce serait invraisemblable de manier des concepts pareils. C'est très polémique. Ce que j'ai voulu dire, peut-être un peu trop rapidement, un peu trop furtivement, c'est qu'avec beaucoup d'humour, au contraire manque d'humour, l'histoire contemporaine semble nous asséner cette catégorie. Non seulement les événements qui ont fait qu'il y avait l'humanité d'un côté et puis les Juifs de l'autre, des événements énormes, mais aussi des manifestations politiques à l'échelle universelle qui semblent résonner comme ça, qu'il y a les règles de l'humanité pour toutes les nations et qu'Israël est un cas à part. Je rentre dans aucun détail, je désigne un phénomène qui en soi est invraisemblable, mais qui est peut-être moins si on arrive à le relier à la manière dont la Bible nous a asséné une catégorie qui est très polémique. Israël, les nations. Il semble-t-il qu'il y a un consensus des nations. Un consensus d'ailleurs parfois insidieux, parfois, vous avez compris ce que je veux dire, négatif. Mais il y a là quelque chose à découvrir. Alors refermons la parenthèse, parce que ça donne le vertige. Je dois fêter. Ok, oui, j'en prie.
Je voulais faire une remarque sur le problème de l'homme en exil par rapport à cette langue originelle. Il y a différentes façons données à l'homme de tenter de renoncer à cet exil. Une des façons qui est donnée à l'homme, c'est par exemple, vous l'avez évoqué rapidement, c'est cette langue universelle, pour autant qu'elle n'est pas traduite, mais audible par toutes les nations et les langues, qui est l'énigme de la musique. Je laisse ça là, mais c'est quelque chose qui pose une question très profonde, cette scission entre la musique qui n'a pas de sens, mais qui n'est pas traductible et audible par les peuples de la diversité des 71 nations. Il y a un autre point dont je voulais faciliter.
Une petite précision sur votre première question. Est-ce que vous pensez à une musique universelle ou aux musiques nationales folkloriques?
Pas du tout. Je pense que la musique, je pense qu'une musique qui se fait en Afrique noire, en Alaska, par Beethoven, je pense que chacune de ces musiques est audible par tous les peuples du monde. Pas de la même façon, mais est transmissible, de s'entendre.
Au même niveau que les...
Je pense, si vous voulez, qu'un tout petit, par exemple, j'ai eu cette expérience, j'ai travaillé avec des amis musiciens, un tout petit... Plus qu'un adulte, quand il a acquis des réflexes musicaux et des habitudes musicales, entend toute musique.
Vous permettez de parler tout de suite de cela, je vais vous dire. Vous avez dit hier soir quelque chose de très important et de très éclairant là-dessus. C'est que, en parlant, je ne prendrai pas vos propres termes, mais vous direz si l'idée est exacte. C'est que, alors qu'on peut tromper un enfant par le langage, parler, et alors le résultat, c'est les syndromes que vous avez décrits. On ne peut pas tromper un enfant au niveau de la musique. C'est-à-dire, une fausse note se décèle tout de suite. C'est un mensonge dans le langage musical. Là, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Alors, ça recode, encore une fois, un enseignement traditionnel, c'est que les voyelles, les consonnes, donc le phrasé du parler, est à un certain niveau de l'émission de vérité, mais que la musique est plus haut. Ça s'appelle, en hébreu, les ta'amim. Et les kabbalistes l'appellent Ta'anug Elyon, la volupté suprême. C'est-à-dire le langage dont Dieu se sert est d'abord musical, et ensuite il s'enveloppe de lettres et de consonnes, enfin de consonnes et de voyelles. Je donnerai une indication d'érudition au niveau de l'exégèse, en citant un grand exégèse du Moyen-Âge qui est Ibn Ezra, et qui indique que l'essentiel du message prophétique est d'abord dans la cantillation, et que ce qui est dit avec des voyelles et des consonnes est second, sinon secondaire, par rapport au ta'am, la cantillation du texte biblique. Ce qui passe comme message dans la cantillation est essentiel, les mots sont second, non pas secondaire, mais second. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là? Il donne comme appui le fait que nous avons deux textes des 10 commandements. Certains mots changent, un texte se trouve dans l'Exode, un texte se trouve dans le Deutéronome, c'est dans Yitro et Vaitranam. Et des mots changent, mais jamais les ta'amim. Les ta'amim sont les mêmes. L'accentuation est la même. Et donc là, il y a encore une convergence que je voulais signaler. C'est donc, tu vas m'aider dans mes souvenirs, c'est le Noam Elimelech qui parle de cela. C'est le Rabbi Elimelech de Chassidim, dans le Noam Elimelech, qui fait un commentaire sur la Bible, et qui nomme la musique le Ta'anou Elion.
Ajouter, ça fait curieux, le dernier enseignement que j'ai entendu de notre maître Chaudron cette semaine-là, c'était un commentaire du récit de Moïse redescendant du Sinaï avec l'État, et Josué il attend en bas, et ils retournent dans le camp, ils entendent des bruits. Et comme dit le texte biblique, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Ce sont des bruits de chant, des bruits de bataille, etc. Et Josué, ce gars-là disait, le Midrash enseigne, Josué dit, ah, je crois que ce sont des bruits de joie qu'on entend. Et Moïse lui répond, non, c'est pas ça, va et apprends la musique.
Oui.
C'est le dernier enseignement que nous avons d'un chronologique.
Oui. Et donc la musique nous aiderait d'abord à distinguer entre des cris de joie et des cris de bataille.
Exact.
Et la barbarie, c'est quand c'est la même chose. Probablement. Mais j'en profite pour citer un commentaire corollaire de cela, mais qui va aussi se relier à notre sujet. Et vous savez que le Midrash enseigne que les deux premiers commandements ont été entendus par tout le peuple, mais qu'il fallait une capacité spirituelle exténuante, si j'ose dire, alors que pour les huit derniers commandements, le peuple a demandé à Moïse de les transmettre. Vous connaissez ce Midrash, ok? Et je ne citerai pas les versets qu'il y a derrière. Or, les deux premiers commandements sont intitulés traditionnellement ainsi, le premier par le premier mot, Anochi, moi, le deuxième commandement par son premier mot, il n'y aura pas pour toi d'autre Dieu, Loïer. Alors je le dis en hébreu et en français, ils ont entendu Anochi et Loïer Lecha. Alors ils ont répété ce qu'ils ont entendu. Alors chacun disait Anochi, moi, Loïer Lecha, brisure de l'unité. Moi, il n'y aura pas pour toi. Et c'est ça ce bruit de voix.